ô Dieu, car c'est la seule œuvre qui justifie l'homme devant son Créateur. Ta parole déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ évidemment, les a libérés de la loi de la mort, de la loi du péché. Seigneur, merci. Après ce moment merveilleux, nous voulons maintenant, Seigneur, nous asseoir et te tendre une oreille attentive afin de recevoir ta parole. Qu'elle puisse nourrir notre âme, qu'elle puisse, Seigneur, renouveler notre intelligence, qu'elle puisse nous rendre capables, ô Dieu, de comprendre ce que tu attends de nous et qu'elle puisse en même temps nous donner la force de faire ce qui est conforme à ta volonté. Bénis ton serviteur, assiste-le. Alors, Seigneur, qu'il va proclamer ta parole, cette semence incorruptible, cette semence vivante et vivifiante. Oui, que cette semence puisse, Seigneur, être accueillie avec foi dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Et gloire à Dieu, nous allons donc continuer notre marathon à travers la parole de Dieu. Nous allons lire dans deux rois, nous laissons Moïse, mais nous gardons encore Paul, car sa vie, ou du moins son enseignement, c'est cette histoire que nous connaissons très bien, de l'armée de Syrie, du roi de Syrie qui était en guerre contre le roi d'Israël et qui va envoyer ses troupes pour aller attaquer, mais qui à chaque fois, eh bien, ses troupes sont confondues. Père avec Israël, il consulta ses serviteurs et dit, « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu, donc Élisée, envoya dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une ou deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël, en d'autres mots, qui est le traître ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi, seulement le prophète Élisée qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez voir où il est et je l'enverrai. » Il y a des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Élisée répondit, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria en disant, Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. Tout en ayant les yeux, tout en regardant, il ne voyait pas au-delà du monde. Ouvre-lui les yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors Élisée pria l'Éternel en disant, frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Nous nous arrêtons donc au verset 18. Et enfin, 2 Corinthiens 4:18, hein, aussi, et nous voulons être comme Élisée, comme Paul, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, sont éphémères, et les invisibles sont éternelles. Et le chapitre 5, verset 7, du même chapitre, du même livre, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voir l'invisible, afin d'aller plus loin dans notre relation avec le Seigneur. Voir l'invisible, réaliser qu'il y a des réalités spirituelles qui nous environnent, qui nous cernent, mais que nous ne pouvons pas percevoir avec nos sens naturels. Et pour cela, nous avons besoin de révélations. Eh oui, mes amis, la Bible attend nous apprendre, tant nous enseigner sur l'influence, sur l'impact du monde invisible sur le monde visible. Les Saintes Écritures, mes amis, ont tant à nous révéler. Voilà pourquoi lorsqu'il est question de ces choses-là, il ne faut surtout pas être tenté de prendre le chemin ténébreux, obscur, de l'occultisme, de l'ésotérisme, de la magie, de la sorcellerie, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous iriez tout droit au devant de votre propre destruction. Mais lorsqu'il est question de toutes ces choses-là, il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que les Saintes Écritures, qui seule peut donc nous révéler l'influence, nous révéler l'impact du monde invisible, le monde que nous ne voyons pas, le monde que nous ne pouvons pas percevoir, appréhender avec nos sens naturels. Voyez-vous, l'influence, l'impact de ce monde-là sur le monde visible, le monde dans lequel nous sommes. Et depuis plusieurs semaines, 10 semaines exactement, 10 dimanches exactement, eh bien, nous examinons des passages des Saintes Écritures, des passages, des textes qui mettent en évidence cette vérité, où nous voyons très clairement que le changement dans le milieu invisible qui nous environne, le changement sur le plan invisible, sur le plan spirituel, entraîne de manière inéluctable des changements visibles, des changements dans notre monde. Gloire à Dieu, alléluia. À partir des expériences de quelques personnages bibliques, comme Daniel, nous l'avions vu, comme Moïse, Josué, dans cet affrontement, dans cette bataille contre les Amalécites, pour ne citer que ce trois-là, nous avons vu, mes amis, comment ce qui se passe sur le plan spirituel, et forcément sur le plan visible, comment cela finit par induire des changements visibles dans notre monde physique. Des changements visibles, mes amis, parmi les hommes. Comment ce monde invisible impacte les événements ici-bas. Il est donc de la plus haute importance, eh oui, de la plus haute importance que nous comprenions, et j'insisterai là-dessus, puisque la Bible insiste là-dessus. Paul écrivant aux Corinthiens, il leur a dit, nous n'avons pas à lutter, nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, contre les humains, mais nous avons à lutter contre des puissances et des forces spirituelles. N'est-ce pas? Et donc, il est important, oui, il est de la plus haute importance que nous comprenions qu'il y a assurément, qu'il y a véritablement une corrélation entre ce qui se passe sur le plan invisible, sur le plan spirituel, et l'environnement physique dans lequel nous sommes. Il y a une corrélation. La Bible est là. De la Genèse jusque dans le livre de l'Apocalypse, vous pouvez voir cette corrélation. Voyez, et Jésus a démontré cela. Voyez-vous, on a vu des gens s'approcher de lui. Aucun rabbin, aucun chef religieux ne pouvait soupçonner que ces gens-là étaient habités par des démons. Oui, il y en a eu d'autres. D'autres qui avaient des maladies, qui n'étaient pas de simples maladies, mais des maladies derrière lesquelles il y avait des forces spirituelles. Et Jésus n'a pas attaqué la maladie. Il a ordonné à la cause. Il a ordonné à ces réalités invisibles qui exerçaient leur influence macabre, funeste sur les individus. Il leur a ordonné de partir. Et sur le champ, les personnes ont expérimenté la délivrance, la guérison. Alléluia. Il y a eu donc un changement visible parce qu'il y a eu un changement sur le plan spirituel. En effet, la majorité des choses qui se produisent sur terre, parmi les hommes, entre les humains, la majorité des choses qui se passent, qui se produisent entre les nations, ces nations qui sont tout le temps en tension les uns contre les autres, oui, la majorité de toutes ces choses-là sont influencées, mes amis, par le monde que nous ne voyons pas. Ces institutions internationales, voyez-vous, dirigées par des gens qui sont sincères, par des gens qui sont intelligents, par des gens compétents, mais qui en réalité ignorent qu'ils sont manipulés par des puissances spirituelles, des puissances invisibles, qui les inspirent dans leurs choix, qui les inspirent dans leurs décisions. Voyez-vous, tout en étant là-bas pour travailler pour le bien-être de l'humanité, ils se retrouvent à travailler contre le bien-être des autres. Oui, je vous rappelle une fois de plus que tout ce qui a une signification éternelle sur cette terre, ici-bas, comme la vie de l'homme, notre vie a une portée éternelle. Voyez-vous, mes amis, nous sommes nés un jour, mais nous vivrons éternellement. Soit loin du Seigneur, dans ces lieux de grincement de dents, dans ces lieux d'atroce souffrance, dans ces lieux, mes amis, où le feu brûle éternellement, soit alors, nous serons avec Dieu dans son ciel de gloire. Et puisque notre vie a une portée éternelle, eh bien l'ennemi de nos âmes va tout faire pour essayer de détruire cette vie-là. C'est ce que j'appelle une signification éternelle. La vie de l'homme, tout ce qui réglemente le sort des peuples, le sort des hommes, tout ce qui réglemente les nations, eh bien, tout cela, mes amis, est contrôlé à partir de ce monde que nous ne voyons pas, mais qui pourtant est là. C'est donc ce monde que nous ne voyons pas, ce monde invisible, ce monde spirituel bien structuré qui gouverne le monde visible dans lequel nous sommes. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit dans sa prière dans le Notre Père, il nous a dit... Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne... Alléluia. Il n'y a que le règne de Dieu qui peut amener de véritables changements en nous et autour de nous. Mais pour autant que nous comprenions par quel mécanisme le règne de Dieu peut se manifester en nous et à travers nous. Pour autant que nous comprenions quels sont les principes, qu'est-ce que nous devons faire, mes amis, pour déclencher un mouvement spirituel qui puisse faire reculer nos adversaires, qui puisse désarmer tous ceux qui nous cherchent, tous ceux qui cherchent à attenter à notre vie. Cet impact, cette influence de l'invisible sur le monde visible, je le dis, est l'un des thèmes importants de la Bible. Mais malheureusement, nous ignorons. Voilà. Même des pentecôtistes aujourd'hui, trop peu parlent du combat spirituel. Tout le monde se tourne vers des prophéties pour manipuler le gens. Tout le monde parle de l'élévation, de bénédiction. C'est bien tout cela. Mais le diable peut élever. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce qu'il arrive à placer ces gens à la tête des nations pour que ces gens-là puissent travailler à la destruction des autres. Oui, l'influence de l'invisible sur le monde visible est un thème important. Voilà pourquoi j'ai voulu consacrer autant de dimanches, lire et relire quelquefois les mêmes passages pour nous permettre, mes amis, de comprendre tout ce que les saintes écritures ont à nous révéler par rapport à tout cela. Et encore, il y a le dimanche dernier et le dimanche d'avant. Nous avons vu comment ce monde invisible influence le visible dans cette confrontation entre d'un côté Israël, là dans la vallée à Rephidim, Israël ou quelques hommes d'Israël sous la conduite de Josué pour affronter Amalek, les Amalécites, et Moïse sur le sommet de la colline qui va participer de manière très active, mais dans la prière, en élevant l'autorité de Dieu à partir du bâton qu'il avait reçu, alléluia. Moïse se tient debout, alors que Josué est en train de conduire la bataille, là dans la vallée. Moïse se tient sur la colline, avec le bâton de Dieu dans la main, comme nous l'avons vu, symbole de l'autorité et de la puissance de Dieu, alléluia. Et là, l'homme est en prière, l'homme exalte la puissance de Dieu. L'homme, mes amis, par son intercession, par sa prière, eh bien, combat. Alors que Josué est là, livre bataille. Et nous l'avons vu, mes amis. Le vrai combat avait eu lieu, non pas dans la vallée, mais là au sommet, sur le plan spirituel. Alléluia. Les actions qui ont eu lieu là au sommet de la montagne, dans le monde visible, parce qu'au loin un observateur aurait pu voir Moïse sur le sommet de la colline, oui ou non? Il aurait pu voir Moïse là debout, avec un bâton dans sa main. Voilà, donc les actions visibles, Moïse élevant le bâton, Moïse même entendre peut-être sa proclamation de la victoire, demanda à Yahvé d'intervenir en faveur de son peuple, de mettre en déroute cette armée des Amalécites. Oui, ces actions-là, dans le monde visible, mes amis, ont fini par mettre en mouvement l'autorité et la puissance de Dieu, autorité et puissance invisible, et c'est donc cette autorité, et c'est donc cette puissance qui vont déterminer l'issue de la bataille dans la vallée. Quand les mains de Moïse se fatiguaient et qu'il est baissé, la Bible nous dit qu'Amalek avait l'avantage sur Israël. Et quand il les élevait de nouveau, eh bien, c'est Israël qui avait l'avantage. Et donc, tout se jouait là sur le sommet. La puissance de la prière. Vous comprenez pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse. De faire toutes sortes de prières par l'Esprit. Dieu seul connaît les dégâts que nos prières font dans le camp de nos adversaires. Moïse en intercession. Et cela va déterminer l'issue de la bataille. Josué et les hommes qui l'accompagnaient, ces hommes qui n'avaient pas de grande expérience dans le domaine militaire. Josué lui-même, c'est la toute première fois que Josué apparaît dans le texte biblique. Eh bien, ils ont remporté la victoire. Le peuple s'est réjoui d'avoir terrassé cet adversaire-là. Vous voyez? Ceux qui étaient avec Moïse, là dans la vallée, auraient pu le féliciter. Mais merci Moïse, nous voyons que tu as vraiment le leadership avec toi. Nous ne pouvions pas nous imaginer que tu pouvais conduire. Eh bien, notre peuple un combat avait lieu sur le sommet. Et que c'est dans la prière que ce combat avait été remporté. Donc Israël a remporté la victoire dans la vallée, nous l'avons vu la fois dernière. Mais au fond, déroulé de la cave au grenier, de A jusqu'à Z, là sur le sommet de la colline, sur le plan spirituel. Mes amis, l'impact du spirituel sur le physique. La supériorité, mes amis, la primauté du spirituel, de l'invisible sur le visible. Nous le voyons là, clair. Tous ces changements visibles dans la vallée, l'ennemi terrassé, le peuple qui est dans la joie, qui exulte, le peuple qui se réjouit, et puis ensuite qui se met en route vers le mont Sinaï, tous ces changements-là, eh bien, a été induit par ce qui s'était passé ou qui s'est passé sur la colline. Et nous l'avons vu. Cette victoire éclatante, là dans la vallée, là à Rephidim, va avoir des répercussions au-delà de Rephidim, au-delà du lieu où a eu cette bataille, au-delà du lieu d'affrontement. Dieu va aller au-delà, oh gloire au Seigneur. Dieu est un Dieu, mes amis, qui va toujours au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous... Dans les Écritures, vous verrez, oh il est bon, c'est Dieu merveilleux. Nous lui demandons quelque chose, nous le recevons. Mais nous ne pouvons pas imaginer d'autres choses qu'il nous a données et que nous ne pouvons recevoir qu'avec le temps. Mais comme lui est le temps, hier, aujourd'hui, mais aussi demain, sont dans sa main, il a déjà donné. Il faut que nous avancions, il faut que nous changions de lieu pour que nous expérimentions une bénédiction. Et là, nous sommes surpris. Nous oublions que cette victoire que nous avons remporté avec lui, l'impact que nous avons eu sur le monde invisible, a fini par décanter certaines situations qui étaient là, pour lesquelles nous avons eu à pleurer. Oui, l'onde de choc, comme je l'ai exprimé la fois dernière, l'onde de choc déclenchée par cette victoire éclatante à Rephidim, et ce sur le plan spirituel, va aller au-delà de Rephidim. Aller au-delà du lieu d'affrontement et va dénouer une situation qui doit avoir fait souffrir Moïse. Nous l'avons vu. Depuis le sortir d'Égypte ou la sortie d'Égypte, Moïse était privé d'une grande bénédiction. Sa femme n'était pas avec lui, Séphora. Ses deux enfants à qui il avait donné des noms. Des noms prophétiques. Des noms qui lui rappelaient ce que Dieu avait fait. Qui lui rappelaient ce que lui-même était. Voyez-vous, on a vu ça dans Exode 18. Eh bien, l'onde de choc, cette victoire va secouer le monde spirituel. Au point où ça s'est décanté. C'est ainsi que quand nous arrivons au chapitre 18, la Bible nous dit, le beau-père de Moïse, Jéthro, se leva. Il regarda sa fille et dit, Séphora, je crois que nous devons aller rejoindre ton mari. Je vais aller te déposer chez ton mari, ainsi que tes deux enfants. Est-ce que Moïse pouvait s'imaginer que cela lui allait arriver après la victoire à Rephidim? C'est que son œil n'avait pas vu. C'est que son oreille n'avait pas entendu. Ce qui n'était pas monté de son cœur. Dieu l'avait déjà préparé. Oh, alléluia. Pour son bonheur. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Oh, demain, que serai-je? Demain, ceci, demain, cela. Non! Le Seigneur sait. Occupez-vous d'aujourd'hui. Faites tout pour être en règle avec lui aujourd'hui. Alors vous serez rassurés quant à vos lendemains. Et gloire à Dieu. Une bataille à Rephidim, mais deux victoires. Victoire pour Israël et pour Moïse, puisque leur ennemi puisque ce grand obstacle sur la route qui les menait tout droit vers la terre promise, cet obstacle-là a été anéanti. Puisque cette montagne qui tout d'un coup s'est dressée devant eux, la terre promise, eh bien, cette montagne a été déplacée. Victoire, non? Mais une deuxième victoire que Moïse vivra quand il va arriver au désert de Sinaï. Quand finalement, alors qu'il est avec les autres, tout d'un coup, on vient lui annoncer cette bonne nouvelle. Moïse, tu ne peux pas deviner qui vient. Tu ne peux pas deviner ce qui arrive. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous avons la victoire. Maintenant, la route est devant nous. Nous devons continuer. Il dit oui. Nous sommes en train de continuer, nous sommes arrêtés ici pour nous reposer. Mais devine qui c'est. Attendez, nous allons les faire entrer dans la tente. Moïse, tout d'un coup, commence à se poser des questions. Mais quelle est cette surprise? Qui va me surprendre dans ma tente? Il n'y avait pas de photo à l'époque, hein. Pas de WhatsApp, autrement il aurait eu encore le temps de regarder toutes ces photos de famille, sa chair et sa tendre et ses forages, sa biche. Paraissait plus grand que ton frère, est-ce que tu l'as dépassé? Voyez-vous, c'était des questions légitimes, jusqu'à ce que la surprise rentre dans la tente quand Moïse regarde. Devant lui, c'est son beau-père, Jéthro. Et avec Jéthro, sa femme, Séphora, et les deux fils. Pouvez-vous imaginer la joie de cet homme-là? Hein? Eh bien, ça c'est Dieu. Une bataille à Réphidim, mais de victoire. Alléluia. Avec notre Dieu, mes amis, jamais 102. Jamais 203. Jamais 300. Voilà pourquoi nous ne devons pas le limiter. Lui seul sait. Il y a des bénédictions que tu bénéficies aujourd'hui. Non pas parce que tu as jeûné aujourd'hui ou tu as fait quelque chose de spécial. Mais les victoires d'hier, les moments de larmes et de douleurs d'hier, les épreuves endurées qui t'ont amené à chercher Dieu, à te laisser conduire, les moments de bataille, la Réphidim, eh bien, on finit par provoquer une onde de choc dans le milieu spirituel. Et les choses ont bougé. Et quand le monde spirituel bouge, voyez-vous, il y a des changements concrets. Et Moïse a eu un sourire jusque-là parce que Séphora est arrivé. Oui, l'impact de l'invisible sur le visible, alléluia. Aujourd'hui, très rapidement, nous allons voir un autre exemple. Nous l'avons lu. C'est le cas du prophète Élisée face à l'armée syrienne. Ce texte nous montre encore une fois, mes amis, que si nous voulons changer les situations dans le monde visible, et moi je veux bien, j'espère que vous aussi, vous voulez bien voir les choses changer autour de vous, n'est-ce pas? Que ce soit dans votre couple, dans votre famille, que ça soit dans votre milieu professionnel, que ça soit le milieu dans lequel vous vivez. Vous voulez qu'il y ait des changements concrets. Voyez? Eh bien, une fois de plus, comme nous l'avons vu pour Daniel, comme nous l'avons vu pour Josué et Moïse, et comme nous allons le voir avec Élisée, eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Les choses peuvent changer sur le plan visible. Mais pour autant que nous comprenions dans quelle mesure le royaume céleste peut y contribuer. Alléluia. Dans quelle mesure le monde invisible, dans quelle mesure le royaume de Dieu auquel nous appartenons peut contribuer au changement après lequel nous languissons. Nous avons des géants qui se tiennent devant nous, des Goliaths, nous avons des montagnes qui sont là, qui se dresse devant nous. Nous avons des hyènes des ténèbres qui sont là, qui nous menacent. Nous avons des puissances démoniaques qui cherchent par tous les moyens, mes amis, et qui créent des situations qui nous font pleurer tout autour de nous. Voyez-vous? Qui créent des situations qui nous empêchent de mener une vie tranquille. Voyez-vous? Et je peux vous assurer que quelquefois, l'ennemi n'est pas là où on l'attend. Voyez-vous? Vous voyez simplement les hommes. Oh là là! C'est parce qu'il se drogue, il fume, il prend le chanvre. Oh, c'est parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Oui, il y a eu ceci, cela. Mais ces humains-là, qui sont à la base de ce problème, sont manipulés par les puissances démoniaques. Alors plutôt que de s'attaquer à eux, eh bien, levez-vous et allez s'attaquer à ceux qui les tiennent captifs, à ceux qui exercent une certaine emprise sur eux, à ceux qui les ont amenés à l'ouest, au point de perdre le nord. Et donc comprendre dans quelle mesure le royaume de Dieu peut contribuer au changement concret après lequel nous languissons. Et inversement, nous avons également besoin de mieux comprendre la manière dont vous et moi, nous pourrions influencer ce monde invisible afin que nous voyions des changements dans le monde visible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le récit que nous venons de lire est l'histoire d'Élisée face à l'armée syrienne. L'histoire d'Élisée avec son serviteur alors qu'ils étaient à Dothan est une illustration, une fois de plus, de ce qu'en changeant le spirituel autour de nous, en changeant, en impactant l'invisible, nous pouvons assister à des changements visibles. Alléluia. Revenons à cette histoire. Nous quittons Réphidim, n'est-ce pas? Moïse, Josué, nous quittons le campement d'Israël là dans le Sinaï, et là nous allons à Dothan, où Élisée était tranquillement dans ce lieu-là avec son serviteur. Jusqu'à ce que ce matin-là, quand son assistant se réveille, eh bien, il pousse un cri de détresse, exprime sa peur, exprime sa préoccupation. Il était sorti pour respirer un peu l'air frais matinal, pour contempler le lever du soleil. Et là, eh bien, il assiste à une scène qui va le déconcerter. Une scène qui va le remplir de désespoir. Une scène qui va l'effrayer. L'homme a peur. Il voit que Dothan, cette petite ville, est donc cernée, entourée par l'armée syrienne. Une forte troupe syrienne avec des chars et des chevaux, donc des cavaliers, des chevaux, armés. Que faire dans ce cas-là? C'est peut-être ton cas. Tout allait bien, tout baigné dans l'huile, tu avançais sans problème. Les gens t'enviaient, tu allais de gloire en gloire, de victoire en victoire, de réussite en réussite, et voilà tout d'un coup, tu te retrouves à Dothan. Et là, tu es cerné. Tu ne peux plus avancer. Quand tu regardes, eh bien, à ce qu'il y a autour de toi, tu te dis, mais au contexte, tu te dis, mais comment puis-je avancer? J'ai l'impression de tout faire. J'ai l'impression que, où que je regarde, il y a une montagne. Je me retrouve cerné par des montagnes des problèmes financiers, des montagnes des problèmes familiaux, des montagnes des problèmes peut-être même dans le couple, des montagnes des problèmes dans mes affaires, alors que ça allait très bien, alors que je donne ma dîme, je soutiens l'œuvre de Dieu. Comment expliquer? Oui, ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme, ce n'est pas parce que tu mènes une vie extraordinaire avec le Seigneur, que tu serais immunisé contre les épreuves. Attention. Paul nous dit, celui qui aimera vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et donc, on n'a rien à faire, on n'a pas besoin de tirer sur la barbe du diable, j'espère qu'il en a une, pour qu'enfin susciter sa colère. En disant, petit, lâche-moi, tu vas voir. Tu tires sur ma barbichette, tu vas voir. Hein? Non. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est dans sa nature de nous haïr. C'est dans sa nature de chercher à nous détruire. C'est dans sa nature de chercher à diviser les foyers, les couples. C'est dans sa nature, mes amis, de dévorer, de laisser les gens dans le malheur, de voir les gens souffrir. Là, il organise un barbecue. Quand il voit les hommes et les femmes, faites à l'image de Dieu, mes amis, menez une vie de cochon, eh bien, là, ils se réjouissent. Tous les démons organisent des bals, comme à l'époque, et ils dansent. Et là, les hommes tournent, végètent dans une existence terne. Là, ils sont contents. Et donc, tu es comme cerné. Alors, mon frère et ma sœur, ne te fatigue pas. Ne baisse pas le bras. S'il y a ça, c'est que le Seigneur a quelque chose à t'enseigner. C'est une occasion pour toi de réaliser l'importance de l'invisible sur le visible. Oh, alléluia! C'est ce qui est arrivé. Quand il voit ça, il rentre. Il rentre effrayé. Il rentre rempli de peur. Il dit, mon Seigneur, tu ne peux pas deviner ce que je viens de voir. Mais l'homme de Dieu calme. Certainement qu'il avait commencé la journée avec son Dieu. Élisée avait une grande proximité, une grande intimité avec son Dieu. Alléluia. Et il arrive. Il lui raconte ce qu'il vient de voir. Eh bien, avec tout ça, il s'attendait peut-être que l'autre aussi panique. Il dit, oh là là, maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire? Non. Il n'a pas pu lui communiquer sa peur. Parce que Élisée savait qui était avec lui. Parce qu'il avait une vision qui allait au-delà du visible. Parce qu'il savait au-delà du visible, il y a l'invisible. Au-delà des royaumes terrestres, il y a le royaume de Dieu. Au-delà de l'armée, des armées physiques, il y a l'armée de l'Éternel. Et quand on est conscient que on appartient au royaume de Dieu, royaume dans lequel il y a la plus puissante armée qui soit de tout le temps, d'éternité en éternité, cette armée-là, fort de tout cela, eh bien, on regarde nos épreuves, on rend grâce à Dieu. Oh, alléluia. On ne se laisse pas effrayer. On ne se laisse pas, on ne se laisse pas gagner par le désespoir. L'homme est serein, là d'autant. Vous avez peut-être oublié, ou vous ne le savez pas, c'est pourquoi je vous encourage à lire la Bible de manière systématique, tous les livres de la Bible. Mais sachez que c'est à d'autant que Joseph, fils de Jacob, fut jeté dans un puits par ses propres frères avant d'être vendu à des caravanes d'Ismaélites et de Madianites. C'était à d'autant. Avec ce puits, puits de douleur pour Joseph, n'est-ce pas? Avec ce puits ou cette citerne d'humiliation. On l'avait dépouillé. Il avait une tunique bigarrée que lui avait offert son père. Mais ses frères remplis de jalousie, comme aujourd'hui. Les gens vous regardent, il y en a qui vous sourient, mais au fond, ils ne vous portent pas dans leur cœur. Ils ne jurent que par votre mort. Ils aimeraient vous voir faire faillite. Ils aimeraient vous voir échouer dans vos nouvelles responsabilités. Ils aimeraient vous voir vous casser le visage. Ils aimeraient vous voir reculer plutôt que d'avancer. Là d'autant, la citerne de la douleur, la citerne de l'humiliation, du dépouillement, la citerne des larmes, eh bien, le même d'autant, des siècles plus tard, avec Élisée, le décor change. Oh, alléluia. Le décor change. Dans le même lieu. Le décor change. Cette fois-ci, Élisée est là. Son serviteur est là. Les ennemis arrivent, ils débarquent, ils entourent la ville. L'autre panique, l'autre est effrayé. Il se tourne vers Élisée. Élisée, il devait connaître l'histoire de ses ancêtres, notamment celui de Joseph, puisqu'il a marqué l'histoire de son peuple. Il s'est dit, il y a eu un puits d'humiliation pour Joseph. L'ennemi s'attend peut-être qu'il y ait un puits pour m'enterrer, parce que l'armée qui venait, ce n'était pas pour jouer aux cartes avec Élisée, mais c'était pour le tuer. Mais là, vous n'allez pas m'enterrer ici. Il regarde son serviteur et dit, n'aie pas peur, alléluia. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, oh alléluia, que ceux qui sont avec eux. Arrêtons-nous un tout petit peu. Ceux qui sont avec nous, et ils sont combien, visiblement? Ils sont à deux. Ceux qui sont avec nous, ben, nous c'est qui? C'est Élisée et son assistant. Sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais les eux là, c'est qui? Les Syriens. Oui ou non? Oui. Mais il dit que les Syriens, ceux qui sont avec les Syriens. Mais qui sont ceux-là qui sont avec les Syriens? Qui sont ceux-là qui sont avec Élisée? Pour le savoir, l'assistant avait besoin que ses yeux s'ouvrent sur les réalités invisibles. Il avait des yeux pour voir. Mais en fait, il ne voyait que ce qui est visible. Il ne pouvait pas aller au-delà du visible. Et c'est là que l'homme de Dieu, qui lui avait les yeux de la foi, qui lui permettait de voir l'invisible, va simplement prier. Il ne s'est pas arrêté là-dessus en lui disant, bon, je vais te faire tout un cours de théologie. Voilà, ceux qui sont avec nous, voilà. Ça n'aurait rien changé. Il fallait que l'assistant lui-même puisse expérimenter cela. Il va prier. Donc, nous voyons qu'il y a d'un côté une forte troupe syrienne, mais avec ceux qui sont avec eux. Que l'homme de Dieu, et plutôt le serviteur, l'assistant d'Élisée n'avait pas vu. Parce que manifestement, il a vu quoi? Il a vu des chars visibles. Il a vu des soldats syriens, des êtres humains. Il a vu des chevaux avec leurs cavaliers. Cavaliers des êtres humains. Point barre. Mais le Seigneur va répondre à la prière d'Élisée. Il va dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Le Seigneur ouvrit les yeux du jeune serviteur et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce que Élisée connaissait et voyait. Car cette armée qui était autour, tu peux garder ça. Cette armée des chars de feu, des chevaux de feu avec des cavaliers de feu, eh bien, n'est pas apparue lorsque Élisée a prié. Non! L'armée était là, alléluia. Nous sommes environnés par l'armée du Dieu vivant. Nous voyons qu'au-delà de cette armée syrienne, au-delà du visible, au-delà d'Élisée et de son assistant, au-delà des humains, comme vous et moi, il y avait des réalités invisibles. Vous voyez? Et ces forces invisibles, mes amis, étaient là, était bien là. Tout au long, comme on dit en français. Ils étaient là. Tout du long, plutôt. C'est seulement que le serviteur d'Élisée ne pouvait le voir. Il en est de même pour nous, mes amis. Nous vivons dans un monde fourmillant, d'une grande et perpétuelle activité angélique et démoniaque. Mais nos yeux humains ne peuvent pas voir ni percevoir cette activité spirituelle autour de nous. D'où l'importance de recevoir la révélation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme Moïse, dans la prière, Élie va aussi prier pour son serviteur. Et le Seigneur va l'ouvrir les yeux. Et que voit-il? Il voit une montagne, cette fois-ci, remplie des chars de feu, de chevaux de feu, montés par des cavaliers de feu, ce qu'il n'avait pas vu. Il ignorait cette réalité. Voilà, mes amis, la réalité. Nous sommes environnés par une armée constituée de chars de feu. Le chef de cette armée n'est autre que celui qui vit dans ton cœur. Ne panique pas ou ne panique plus. Ne t'effraie plus. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux, plus puissants que ceux qui sont avec ceux qui te combattent. Plus puissants que toutes ces circonstances qui se tiennent devant toi et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Et ça ne va pas s'arrêter là. Nous terminerons la fois prochaine et nous passons beaucoup de temps dans la prière. J'avais dit que on allait commencer avec comment le thème sur comment voir l'invisible, mais nous allons terminer avec ce récit et nous prendrons du temps dans la prière, ce que nous aurions dû faire aujourd'hui, mais il fallait que nous avancions. Eh bien, Dieu va aller plus loin, parce que les Syriens, plus le soleil se levait, plus c'était une occasion pour eux de descendre et d'aller attraper Élisée. Ils sont descendus. Quand Élisée les a vus, eh bien, qu'a-t-il fait? Il a de nouveau prié. Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Dieu va agir. Ils vont devenir aveugles. Leur comportement va changer. Ils venaient s'appuyant sur leur force, sur leur char, mais Élisée, lui, s'appuyait sur le Dieu qu'il servait. Seigneur, il n'a pas fui. Il s'est tenu devant eux, comme David devant Goliath. Il a simplement prié. La puissance de la prière. C'est la prière qui met en action l'autorité de Dieu sur le plan invisible, afin de voir des changements sur le plan visible. Frappe-les d'aveuglement. Paf! Et là, il va s'amuser avec eux. Vous savez, Dieu, des fois, nous amène nos adversaires comme sur un plateau. Tu le regardes, dit Allah. Voilà l'homme qui me menaçait. Voilà l'homme qui pensait qu'il allait m'envoyer en enfer. Voilà l'homme qui pensait que l'entreprise appartenait à toute sa famille, à toute sa tribu. Voilà l'homme qui marchait imbu de lui-même, comme étant au centre de la terre, comme s'il était le centre de l'univers. Tu vois? Avec toute ta force, tu es là. Et c'est ce qui est arrivé. Élisée leur dit, vous venez? Venez, moi je vais vous conduire. Venez, il dit, non, c'est pas ici. Venez, non, je vais vous diriger vers l'homme. Il va le conduire, vous savez où c'est? Vers le roi d'Israël, celui contre qui ils étaient en guerre. Quand le Seigneur approuve la voix d'un homme, que fait-il? Il dispose favorablement même ses ennemis. Alors, quand il va se disposer ses ennemis, ce n'est pas pour que tu commences à leur appeler. Vous voyez, mon Dieu, toi, t'as vu, Kabanda, Fokeba. Non. Quand ils arrivent là-bas, le roi veut faire le malin, il veut le tuer. Et ils ont dit, non, ne fais pas ça. Donnez-leur à manger. Ce sont des malheureux. Voilà comment il faut traiter ses adversaires, ses ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. S'il a soif, donne-lui à boire. Alléluia. Leurs yeux se sont ouverts. Quand ils s'ouvrent, ils sont où? À Samarie. Cette fois-ci, sont eux qui sont cernés par l'armée d'Israël. Ils regardent à gauche, chef. Il dit, mais chef, ah oui, qu'ils attendent. Nous sommes en Israël. Que faire? Eh bien, on leur demande de s'asseoir, manger. Nous n'allons pas vous traiter comme vous pensiez nous traiter. Mes amis, changeons l'invisible. Impactons l'invisible par nos prières, prières d'autorité. Alors nous verrons le changement. Que Dieu vous bénisse.